Nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger.
She's bang tidy and I'm acting a mess. She's the air to my lungs, I'm catching my breath. When I inhale her, put that to the test. Yo, I'm acting the worst, she's reacting the best. One day I'm gonna ask you the question. Wrap in my chest, might smile like everything's good, but I'm hiding the fact I'm depressed. Yeah, it's not your fault, look what I did. It all comes back when I shut my eyelids. Yeah, I've been round the block, done the mileage, removed all the waste and claimed the prizes. Now I can't get no sleep, man, I'm faithless. Think I'm jealous of my loved up neighbours. Yo, I'm sick of doing everybody favours. Time to start turning the putt-putt pages.
And it's not usually like me to stutter on words, to lose out on sleep. But with you, cat's got my tongue, and I'm wide awake, quarter past one. Oh, look what you've done, done, done. Look what you've done.
Il est 20h04 et tout de suite, retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission, la dernière de l'été, un été qui aura été marquant pour nous tous avec plein d'événements, cette Coupe du Monde notamment et maintenant les reprises de tous les championnats de foot notamment, on y reviendra tout à l'heure avec un point sur le SCO, la Ligue 1, un peu de Liga, on en parlera Arthur, du basket avec l'équipe de France. et du tennis avec Arthur Fils. Et on finira par le quiz, comme vous en avez l'habitude. Pour m'accompagner ce soir, il y a une personne que j'ai déjà dit son nom, c'est Arthur qui est avec nous. Salut Arthur.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très ravi d'être là pour cette dernière, en compagnie de notre animateur préféré.
Ça me fait plaisir aussi que tu sois là. Tu iras chercher évidemment cette dernière victoire.
Bien sûr.
Au grand quiz de l'été, on t'attend dessus évidemment. Pour t'accompagner, il y a aussi Aaron, salut Aaron.
Salut, bonsoir tout le monde, toujours... présent pour la team des Stapsiens, mais cette fois tout seul, voilà. Donc je vais le représenter fièrement.
Voilà, et on t'attendra également pour savoir si tu sauras représenter les Stapsiens au grand quiz. Et en tout cas, un autre Stapsien qui est avec nous, mais un Stapsien d'un autre temps, c'est Yann qui est avec nous ce soir. Salut Yann.
Bonsoir à tous et à toutes. Faustin, merci pour donner ce côté vintage de m'avoir... invité, bah je ne me sens pas du tout visé, donc non. C'est parfait.
Bah avec plaisir. Pareil, tu essaieras de représenter ta génération pour le quiz ce soir.
Quiz des OG.
C'est ça, et il y a des questions OG justement, c'est fait exprès. Bon, il n'y en a pas tant, ça. Il aurait pu en avoir plus, mais je me suis limité. On va commencer sans plus tarder avec le SCO qui a joué son premier match de Ligue 1 et qui a perdu 2-0 contre Lille. Pour autant, face à l'ancien 3e de Ligue 1, le SCO a su se montrer combatif et a su se créer des occasions pour marquer, notamment avec 17 tirs dont 4 cadrés et la possession à la fin du match. En attaque, c'est Amis Bay qui a été le plus dangereux, créant de vrais décalages et offrant de vraies bonnes opportunités à ses coéquipiers qui n'ont pas su finaliser les actions. En défense, c'était beaucoup plus compliqué. On le disait, on comptait beaucoup sur le gardien. Et Anthony Lopez a répondu présent sur ce premier match. Cependant, c'est vrai que les défenseurs ont eu beaucoup de mal, laissant énormément d'espace aux Lillois tout au long du match, que ce soit dans l'axe ou sur les ailes, ce qui aurait même pu coûter plus cher, sans qu'il y ait eu un but refusé pour hors-jeu du côté des Lillois. Également, c'est visible sur le premier but d'Olivier Giroud. Vraiment, les espaces sont énorme, tellement il y en a, c'est assez aberrant. Est-ce que Yann, t'as un petit avis, pas sur le match, mais sur la saison à venir du SCO, comment tu le sens cette année?
Alors, contrairement à l'optimisme dont tu as fait preuve la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, moi je serais un petit peu plus pessimiste en fait.
Ouais.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans les commentaires, on voit souvent des personnes qui verraient le SCO dans les 10 premiers et d'autres qui le voient descendre. Moi, je crois que ça va être très, très compliqué. On s'enflamme un petit peu trop sur la préparation, je trouve, avec la victoire notamment contre le PFC. On a l'impression que ça y est, c'était fait. On est vite retombé sur terre, même si la prestation a, semble-t-il, été très correcte.
Ouais.
Mais ça reste une défaite 2-0. Il va falloir déjà dès la semaine prochaine jouer ces matchs très importants contre les candidats directs. Donc jouer ce petit championnat à 5 équipes là à fond.
Ouais, on est d'accord, parce que la semaine prochaine sera donc contre Auxerre que le SCO jouera. On a teneur du titre qui nous dit bonsoir tout le monde. Imagine, teneur du titre, c'est Grégory qui avait remporté le quiz la semaine dernière. On lui passe le bonjour. Le SCO du coup qui jouera contre Auxerre la semaine prochaine. Un match déjà très très important pour la lutte contre le maintien. Sachant qu'on a appris dans l'après-midi le départ d'un défenseur angevin. C'est Jacques Écomier qui a été vendu à Wrexham contre 8,7 millions d'euros. Donc ça reste quand même une très belle somme, un peu plus que ce que le joueur est réellement coté. Donc c'est un bon départ qui va une fois de plus remplir les caisses du SCO qui sont bonnes pour le moment grâce au départ notamment de la saison dernière et qui pourquoi pas pourrait permettre un nouvel investissement au niveau des joueurs, un prêt, je ne sais pas.
Est-ce qu'on attend des recrues encore du côté du SCO avant la fin du mercato?
Je suis pas sûr.
Il y a des pistes,
j'ai vu qu'il y en avait une, il y en avait eu deux même qui n'ont pas abouti. Il y en a une du côté de Pau et il y en a une autre du côté de je ne sais plus où. En tout cas, il y a aussi le coup de Joseph Kaloulou qui a été fait.
Il n'a pas joué ce week-end, lui.
Non, il n'a pas joué ce week-end. Il a dû être officialisé dans le week-end, ouais, genre samedi et le match était dimanche, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, qui pourra prendre la place de Jacques Écomier, donc tout ça c'est assez bien fait, mais voilà, le SCO a une trésorerie supplémentaire s'il veut réinvestir. En tout cas, le SCO se porte bien et ne risque pas de dégringoler comme on voit certains clubs le faire en ce moment avec la DNCG, je pense notamment aux Girondins de Bordeaux ou bien même à Lyon, qui potentiellement ne pourrait ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions malgré une victoire contre le Fener, parce qu'ils doivent vendre encore pour 25 millions d'euros.
Du coup, si on devait se renforcer du côté du SCO, ça serait plus dans le secteur défensif.
Oui.
Si là, on a perdu un défenseur, ça a été compliqué ce week-end. Il va peut-être falloir mettre les bouchées doubles.
Dans le recrutement, on a eu des offensifs davantage. Ouais.
Un gardien,
mais ouais, en même temps, on n'avait plus de gardien. Quoi. Voilà. Donc clairement du défenseur, c'est ce qu'il faudrait ou au moins retravailler ça à l'entraînement, je sais pas, avoir un plan de jeu différent sur la défense du SCO, parce que j'ai pas vu le match en entier, mais de ce que j'ai vu du résumé, chaque offensive lilloise donnait des espaces vraiment énormes qui semblaient être évitables. Donc voilà. Avant de passer à la Ligue 1 dans sa globalité, non, on va passer à la Ligue 2 d'abord avant la Ligue 1. Avec toi, Yann, notamment, qui est peut-être un peu déçu en ce moment. Est-ce qu'on a un prono sur le match de la semaine prochaine contre Auxerre? Je pensais avec toi, Arthur, c'est là-bas, c'est à la Baie des Champs.
Allez, je dirais 1-0 pour le SCO.
1-0 pour le SCO. Aaron?
Tout à fait d'accord, 1-0.
1-0, Yann?
Un SCO qui va se ressaisir 2-1.
2-1.
2-1.
Moi, je dirais un 2 partout.
De partout,
beaucoup de buts dans cette rencontre. Le SCO qui ouvre son compteur cette saison.
J'aurais juste rajouté qu'il faut utiliser le chat pour communiquer. Je pense notamment à certains collègues.
Voilà.
Des messages, c'est pour ça.
Vous êtes informés. En tout cas, suffit d'aller sur le site internet www.radio-g.fr et ensuite d'aller sur l'onglet chat. Voilà, pour ensuite envoyer vos messages et qu'on puisse vous lire en direct. On va ensuite passer donc assez rapidement à la Ligue 2 et on va parler que de Nantes finalement, qui n'a toujours pas gagné en Ligue 2. C'est le seul club de Ligue 2 à ne toujours avoir empoché aucun point et qui a déjà viré son entraîneur Michel Derzakarian. Un point sur la situation, Yann, est-ce que tu es désemparé?
Désemparé, ça fait très très longtemps. Même avant que la Kitane arrive, quand j'ai souvenir d'un Pascal Praud qui avait détruit complètement le centre de formation, etc. Bon, c'est dans la lignée de ce qui se fait depuis des années, même si une Coupe de France est arrivée grâce à notamment l'entraîneur Canac. Camboiré, voilà, son nom me revient. Non, là, ça devient très préoccupant. Je pensais que Derzakarian allait faire du bon boulot. Ouais,
comme il l'avait fait.
Ce qu'il a déjà fait à Nantes. Apparemment, ça n'a pas pris. Bon, maintenant, il va falloir se ressaisir. Moi, je connais pas l'entraîneur, là, qui arrive.
J'ai oublié son nom,
Là, c'est sûr que 3 matchs, 3 défaites. Plus l'entraîneur, bon, on est bien dans le système Kita, on n'a pas le temps, on est toujours dans l'urgence.
Trois défaites et puis 5-2 quand même, ça fait mal. Hein.
Ouais, le premier match, défaite contre Laval en plus, ça fait
déjà, en plus la défaite sur Laval, contre Laval, même si c'est pas un gros score, ça donne pas confiance parce que c'est un but dans les dernières minutes, tu étais là, tu prenais ton petit point à l'extérieur, bon, même si c'est pas...
C'est pas le score espéré. Voilà. C'est déjà ça, ouais, non, c'est clair. Nantes en grande difficulté. Est-ce que pour autant tu les vois se maintenir en Ligue 2?
Ouais, je pense quand même, ils vont se ressaisir. Mais là, je pense déjà fortement à la remontée directe. Mais ça se fera pas. Ça va être très compliqué.
Ouais, pas cette saison.
Il va falloir remettre en route. Mais voilà, maintenant Nantes, c'est juste un club de passage pour beaucoup de joueurs. Avant, c'était quand même le club, un des clubs français.
C'était autre chose pour les OG au final. C'était autre chose.
Hein?
C'était autre chose pour les OG, non?
Ah oui, à l'époque.
c'est dommage parce qu'il y a un stade qui est fabuleux, un public qui est fabuleux. Et c'est du grand gâchis. Grand gâchis.
Oui, on suivra en tout cas. On essaiera du moins de suivre la saison de Nantes. Dans le chat, on nous demande est-ce que Yann, c'est le papa de Faustin? C'est des informations que l'on n'a pas le droit de révéler, malheureusement. Voilà. Vous n'en saurez pas plus. On va enchaîner donc sur la Ligue 1. Marseille a ouvert cette saison en se jouant de Strasbourg 4-0 au Vélodrome. Lens a déroulé contre Auxerre 5-2. 3 et le Paris FC se neutralisent 0-0, tout comme Nice et Lorient 0-0 là aussi. Le Mans remporte son premier point en réalisant un match nul 2-2 contre Brest. Lyon, qui avait pourtant aligné l'équipe B pour se préparer sur le match retour contre le Fenerbahçe, se défait de Toulouse 2-0. On l'a dit, le LOSC a battu le SCO 2-0 aussi. Monaco s'en sort face au Havre 1-0. Et pour finir, Rennes et Paris se neutralisent avec un 2-2. Mais Arthur, tu parleras sûrement mieux que moi de ce match, car tu étais au Roazhon Park.
Ouais.
Voilà, de ce match qui de base devait se dérouler au Parc des
Princes. Exactement.
Mais qui n'a pas pu dû à la mauvaise qualité de la pelouse et qui a donc été délocalisé à Rennes. Donc t'étais au stade.
Ouais, très beau match, franchement, agréablement surpris. J'étais jamais allé au Roazhon Park, franchement j'ai bien kiffé, très bonne ambiance. J'étais agréablement surpris aussi par les Rennais, qui ont fourni un très bon jeu. C'est eux qui ont marqué les deux premiers buts, même s'ils se sont fait remonter. Bon, c'était un peu plus compliqué pour la fin, mais ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Ils ont bien su les concrétiser, notamment grâce à Esteban Le Poll, notre ancien angevin.
Une nouvelle fois buteur. Ouais.
Voilà, et puis Ferran Torres, quel début, hein.
Ouais.
Quel début pour un joueur qu'on critiquait il y a quelques mois. C'était
pour le fait de ne pas marquer, il ne pouvait pas rêver mieux. Il rentre à la mi-temps. À la place de Dembélé en plus, hein, Dembélé et Guevara qui sortent à la mi-temps, un geste fort à la place de Luis Enrique, et boum, doublé, pas content, doublé.
Voilà, exactement.
on s'y attendait pas, c'est vrai quand même, et voilà, il nous fait dire le contraire. Est-ce que moi, Rennes, je sais qu'on a fait nos classements de Ligue 1 la semaine dernière, vous avez mis très haut.
Non, moi je l'avais mis bas, Rennes.
Moi je les avais mis haut.
Ah oui, je pense justement, je voulais y revenir, je pense que tu avais raison de les mettre haut, parce que là, s'ils nous font des matchs comme ça, après on sait que souvent, contre Paris, les équipes relèvent un peu leur niveau parce qu'ils s'attendent forcément à plus fort qu'eux, donc ils y vont vraiment à fond. Mais s'ils jouent comme ça toute la saison, pourquoi pas accrocher à la Ligue des Champions.
Ouais, un top 3, un top 4 pour au moins des barrages, c'est ce qu'on verra. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite évidemment à nos amis bretons. On verra ce que ça donne, mais ouais, un Rennes qui démarre bien avec ce match nul face à Paris. Au terme de cette journée, on a aussi vu pas mal de doublés. On a eu 3. Avec donc celui de Ferran Torres, on en disait, celui de Amin Gouiri et celui de Florian Thauvin pour commencer la saison. C'est déjà pas mal. Alors qu'on dit dans le chat que Arthur tente des blagues et il devrait arrêter. Nicolas 221 qui me dit ça, une réponse.
Ouais, je vais pas écouter Nicolas. S'il est pas content, il a qu'à quitter.
Il est obligé, il peut rester, mais il peut subir les blagues d'Arthur.
Moi, en tout cas, à Rennes, j'adorais le tifo, là, le petit tifo concernant le respect.
Oui.
Pour les Parisiens, et c'est comme leur pelouse, ça s'entretient.
Pour vous, le deuxième match, il devrait se jouer où? À Rennes ou à Paris? Le match retour?
Moi, je dirais à Rennes, non.
Moi, j'irai
Rennes, vu que la pelouse sera pourrie tout de suite.
Je dirais Rennes aussi, je suis d'accord.
Ouais, c'est les règles, de toute façon. C'était en effet pas prévisible pour Paris.
On sait que les règles peuvent changer parfois pour certains clubs.
Oui, on le sait.
Voilà. Souvent pour le même, d'ailleurs.
Voilà.
N'appelons pas non plus à la corruption, mais à quoi que ce soit. Mais oui, dans le respect des règles, je dirais que ce serait davantage à Rennes, et on est d'accord autour de la table. On va enchaîner avec la Liga, qui a aussi repris, les favoris qui ont répondu présent. Tout d'abord avec le Real de Madrid, qui s'est imposé 2-1 contre l'Espagnol Barcelone, sauvé par la recrue Carlos Espi à la 90e minute. Est-ce que toi, Yann Touré, un petit avis sur ce nouveau but à la 90e minute?
Ouais, c'est la marque de la Maison Blanche, on va dire.
C'est ça.
Donc marquer dans les dernières secondes et tenir, mais ils gagnent, ils sont très forts, donc il n'y a pas de souci.
Voilà,
mais je préfère autant une victoire 5-0 claire et nette.
C'est en effet ce qu'a fait le Barça, qui s'est largement imposé face à Elche 5-0, donc avec un doublé de Rafinha, un doublé de Fermín et un but de la recrue Adeyemi. En zone Gordon, une autre recrue barcelonaise a quant à lui réalisé un doublé de passe décisive. Le seul bémol de cette journée de Liga pour les favoris, c'était au Metropolitano, où est encore enfermé Yann Alvarez, qui a été hué par tout le stade du début à la fin. Le match contre Villarreal se termine par un 2-2, ce qui n'est pas un résultat atroce contre Villarreal, qui a fini devant l'Atlético la saison dernière d'ailleurs. mais ce qu'on a surtout retenu de ce match, c'est l'attitude de de Julian Alvarez à la fin du match, qui au lieu d'accompagner ses coéquipiers pour voir les supporters, décide de quitter seul le stade sous les sifflets des supporters. T'as grand fan de l'Atlético, Arthur, ouais. T'as peut-être quelque chose à commenter sur cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux.
Franchement, je suis désemparé. Je sais pas. Moi, je voudrais garder Julian, mais si ça continue comme ça, je sais pas si ça va être possible. Mmh. Je sais que j'ai pas envie qu'il parte du côté de Barcelone. J'espère une offre miraculeuse.
C'est Arsenal qui était intéressé à un moment.
Mais Julian, il a pas l'air intéressé.
Non.
Donc, je sais pas comment ça va se terminer. En tout cas, j'ai hâte d'avoir le dénouement qui puisse se donner à fond. Pour notre club, ou alors qu'il nous rapporte un maximum d'argent.
Ouais, c'est ça.
Un des deux au moins, mais là, je veux pas que ça continue comme ça. Donc,
non, voilà. Il reste 4 ans de contrat. Hein, donc,
ouais, il m'a semblé voir que c'est le club qui a demandé à ce qu'il n'aille pas saluer les supporters. Hein.
Ah ouais, c'est moi, j'ai vu cette déclaration-là, mais ça, c'est une déclaration qui peut être faite pour arrondir les angles, quoi. Pour cacher un peu la misère, parce qu'entre-temps, il y a aussi eu des discussions en interne cette semaine sur le cas Julian Alvarez. Qu'est-ce que le club va en faire? Tandis que lui veut évidemment partir. Voilà, ce sera un sujet à suivre jusqu'à la fin du mercato, parce que dans le même temps, on a Rafinha qui se permet de célébrer en faisant Spider-Man.
J'ai vu que c'était peut-être pour son fils.
Ah oui.
Mais
le timing est douteux.
Non, mais ah non, c'est franchement tout ça, ça m'attriste. Ça me ferait vraiment chier de voir partir vers Barcelone.
Ouais, voilà, le tout dans la même soirée. Donc ouais, on suivra ça. C'est évidemment quelque chose qui nous intéresse tous les deux. Mais le mercato touche bientôt à sa fin, donc il serait temps de s'en aller pour Julian Alvarez, ou bien de trouver un accord, de faire quelque chose.
On serait bien content de l'accueillir à Barcelone.
Tout à fait. Un buteur pour remplacer Lewandowski, ça ferait pas de mal. Même si on a vu qu'on s'est marqué des buts, même sans buteur, sans réel numéro 9. On va enchaîner pour le foot. On le retrouvera dans le quiz, évidemment, juste après. On va parler basket et de l'équipe de France, parce que l'équipe de France a disputé 2 matchs amicaux contre la Serbie. Une défaite pour commencer 90-96, puis une victoire au buzzer pour le match retour 91-90. On a pu voir des choses très intéressantes lors de ces deux matchs. Par exemple, l'association de Wemby et Gobert qui a toujours un peu de mal à fonctionner. Et moi, j'ai retenu aussi le très bon match de Gérald Ayayi à Prague. Est-ce que toi, Aaron, qui a aussi regardé ces matchs, t'as des tops, des flops, des analyses à nous faire sur cette équipe de France?
Ouais, ça, déjà, je suis d'accord avec l'association Rudy Gobert Wembanyama qui ne marchera, je pense, donc jamais.
Ouais, il y a moyen.
Je pense que c'est pas possible. Après, j'apprécie aussi dans le premier match toutes les rotations qu'il a faites. Il a laissé beaucoup de temps de jeu à des joueurs auxquels on ne s'attendait pas forcément, et il y en a qui ont brillé, comme Amine Nouah aussi.
Ouais.
Gérald Ayayi, qui ont su prendre les devants dans une équipe de France qui est fort. Qui est très très forte individuellement, ouais. Et qui pêche à trouver collectivement là durant ce premier match et ce deuxième match aussi qui est très intéressant, parce que justement on a pu voir ce collectif qu'a pu se mettre en œuvre. C'est pourquoi on gagne de 20 points dès la première mi-temps.
Ouais.
Mais ce flop, je pense que c'est surtout le troisième carton à chaque fois des deux matchs
qui fait prendre dedans, ouais.
Franchement, il sort la tête de l'eau. Enfin, c'est compliqué, franchement, à chaque fois la reprise.
Ouais, c'est parce que à la rigueur, la victoire au buzzer est assez anodine. On l'a vu même aux réactions des joueurs. Finalement, un buzzer comme ça, la DS, dans la manière dont ça s'est fait, normalement, la salle explose. Là, la salle a pas tant explosé, les commentateurs ont pas tant explosé, parce que on va retenir plus le match dans son ensemble, plus que la victoire en elle-même, avec la France qui menait de 20 points. À la mi-temps, qui se fait rattraper complètement, qui passe même derrière dans le dernier quart-temps, et qui est obligé d'appeler Sylvain Francisco à la rescousse dans le money time à la place de Mathieu Strazel, et qui a su se faire briller lui-même et même offrir des caviars à ses coéquipiers. C'est ça qui fait gagner la France. Donc ouais, c'est ce que tu disais, en fait, faut pas se reposer sur ce genre d'individualité. Ouais. Faut essayer de trouver former un vrai collectif. Après, c'est un peu compliqué en ce moment avec Frédéric Fautou qui cherche finalement son équipe, qui cherche ses vrais joueurs, ses vrais tauliers, son équipe à prendre pour la Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine, sachant que là il y avait des absents, on n'avait pas de Garchon, on n'avait pas de Mathias Lussor, J'en oubliais certains, il n'y avait pas Zakaria Essaché, Bilal Koulibaly, Alexandre Sarr. Voilà, il manquait quand même pas mal de cadres qui pourront revenir dans les prochains jours, on l'espère évidemment. Des prochaines fenêtres internationales, c'est ce qu'on souhaite, voir une équipe de France à 100%. On verra ce que ça donnera dès jeudi, en fait, parce que la France a encore deux matchs à jouer avant la fin de cette fenêtre internationale. Le premier contre la Slovénie, je l'ai dit, donc jeudi, ce sera des matchs pour la qualification à la Coupe du Monde, donc contre la Slovénie, et le deuxième dimanche contre la Suède. Des matchs que l'on suivra et dont on parlera également la semaine prochaine. Pour finir cette page d'actualité, on va parler tennis et Arthur Fils qui a remporté le Master 1000 de Cincinnati. Il est le plus jeune Français à remporter un tel tournoi et le premier depuis 2014. À 22 ans, il ne lui manque plus qu'un tournoi du Grand Chelem dans son palmarès parce qu'il a déjà remporté un ATP 250, un ATP 500 et un Master 1000 avec celui de Cincinnati. Il grimpe également à la 12e place du classement ATP, ce qui fait de lui le meilleur Français évidemment classé actuellement. Est-ce que autour de la table, on a un mot à dire sur la performance d'Arthur Fils depuis son retour de blessure ?
Ouais, il commence à devenir régulier. Ça, c'est intéressant. Bon, il gagne, c'est sûr. Mais des fois, on peut avoir des exploits sur un tournoi. Là, je trouve qu'il commence à gagner en régularité. Je pense qu'une personne qui nous écoute, Laurent, ne me contredirait pas. Certains le placent déjà derrière Sinner et Alcaraz. Je pense que ça, c'est aller un petit peu vite.
Ouais. Et que 22 ans.
Ouais, voilà. 22 ans, il est. Mais j'ai envie de dire enfin un Français qui commence à performer sur le circuit international, c'est de bon augure vraiment pour la suite là, c'est bien.
Ouais.
Non, pas de mot à rajouter. Je suis pas spécialiste du tennis du tout.
Non, même si c'est pas spécialiste. Non plus, je suis pas spécialiste.
Non, on l'attend à Roland Garros, quoi. C'est ça qu'on a envie de voir au final.
C'était blessé cet été, donc. Ouais.
Parce qu'il y a deux ans, il nous en avait fait un bon quand même.
Ouais. Mais ouais, ouais. Ça, et puis
il avait même pas pu finir son dernier match,
non,
il me semble.
C'est ça, justement, ouais. La blessure, c'était au dos, il me semble, pour Arthur Fils, c'était ça. Et cet été, il a eu encore autre chose, j'ai oublié ce que c'était. Mais voilà, il s'était fait sortir juste après, assez prématurément de Wimbledon. Donc, ouais, on verra ce que ça donne. On l'attend évidemment sur Roland Garros, sachant qu'il a gagné l'ATP 500 de Barcelone, qui est sur terre battue. Donc, c'est une surface qu'il maîtrise. Ouais, en effet, on l'attend, voir un Français briller. Pourquoi pas revoir un Français gagner Roland Garros après un certain Yannick Noah. C'est ce qu'on souhaite, évidemment.
Ou sur dur à l'US Open.
Oui, on prend tout ce qu'il y a à prendre, de toute façon. Hein. Mais bon, Roland Garros, ce serait le summum, à mon avis. Voilà pour les actualités internationales et locales. On va passer à la pause musicale que tu nous as choisie, Yann. On va s'écouter quoi?
Ouais, c'est la fin de l'été, mais l'été a été bien et l'été chaud, donc A Beautiful Day de U2.
C'est parti. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. Space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return. Love is down. Voilà, c'était Beautiful Day sur le 101.5 FM de Radio G ou bien sur le site www.radio-g.fr. Pardon. On est reparti pour cette deuxième partie d'émission. Place au quiz. On va jouer tous les trois. Voilà, j'ai mon compteur de points qui est prêt et mes questions qui sont prêtes. N'hésitez pas à jouer dans le chat si vous avez quelques réponses. Je vous ai mis tout, j'ai fait tout ce qu'on a fait cet été. On va démarrer avec de la composition. On aura des questions type questions pour un champion et à la fin deux petites questions personnalisées chacun. Et ben on va commencer. Pardon, j'avais pas activé le micro.
On leur fait gagner quoi dans le chat ce soir?
On leur fait gagner quoi? Bah vas-y, décide.
Et une invitation pour la prochaine émission.
Ah ouais. Bon, peut-être pas, mais, mais on trouvera, on vous dira. On vous
sur
dira,
le site Insta, sur le compte Instagram de Radio
ouais,
G.
Ouais, je vous dirai, voilà. T'inquiète. Mais du coup, composition du soir, tout le monde connaît les règles, composition. Yann, c'est bon, composition.
Ouais, ouais.
Ce qu'il faut faire, voilà, c'était un joueur.
Je sens que voilà, ça va être fameux.
T'inquiète. Citez donc un joueur chacun votre tour. Dès que vous n'en avez plus, vous êtes éliminé. Et celui qui souhaite, qui cite le plus de joueurs, remporte la manche. Enfin, non, c'est plutôt un joueur égale un point. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et bah, on compte les points, tout simplement. Ce soir, la composition, c'est une finale de Coupe du Monde. Une victoire de l'équipe de France en 2018. Voilà, donc assez récent quand même. C'était il y a 8 ans. On a tous un souvenir, j'imagine. J'espère qu'on a tous un souvenir, quand même un grand
oui,
souvenir.
Oui, oui.
Il me semble que Yann, tu étais même en Croatie lors de cette finale,
tout à fait.
De source sûre. donc ouais, bon, on va commencer. Qui commence? Qui
les remplaçants? Non.
Non, pas les remplaçants. Okay. Non, toujours que les titulaires. Donc de la France et de la Croatie. Vous pouvez faire un petit bichon bichon bichette ouais. Pour ça, je pense.
Haut ou bas?
Ouais.
1, 2, 3. Ok.
Aaron, et bah, Aaron, tu commences. Et après, on fera Aaron, Yann, Arthur.
Paul Pogba.
Paul Pogba était titulaire. À toi, Yann.
Ah, c'est à moi, pardon. Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé était titulaire.
Hugo Lloris.
Hugo Lloris était titulaire.
Modric.
Modric était titulaire.
Griezmann.
Griezmann était titulaire.
Umtiti.
Umtiti était titulaire.
Pavard.
Pavard était titulaire.
Je ne sais même plus, moi. Bon, je vais passer.
Ah ouais, même pas. Une tentative, quand même.
Ah non, mais là, je attends.
Si.
Ah, ben si.
Abuse.
comment il s'appelle, déjà?
Comment il s'appelle?
Ouais. Non, je ne sais plus.
Mais... c'est un droit de ça, quand
même. Non, dommage. Bah, vas-y, Arthur.
N'Golo Kanté.
N'Golo Kanté, évidemment, était titulaire. À toi, Aaron.
Giroud.
Giroud était titulaire.
Hernandez.
Lequel?
Je savais que je voulais le faire aussi.
Lucas.
Lucas Hernandez était titulaire.
Je vais dire un prénom en itch, Kovacic, au hasard.
Kovacic n'était pas titulaire.
Ah, dommage.
Arthur, tu peux.
Victoire, Mandzukic, Subasic.
Attends, chaque prénom, c'est un point. Hein.
Ah ouais, ouais.
Mandzukic, Subasic.
Subasic. Ensuite, en équipe de France, Matuidi.
Matuidi.
Varane.
Varane.
Et puis.
T'as fait. Toute l'équipe de France a été faite.
Toute l'équipe de France?
Ouais, c'est bon.
Ah, et puis Modric, Modric c'est été fait, Subasic, Mandzukic, ouais, là ça va être fini pour moi aussi. Hein.
Fini pour toi?
Ouais.
Bah déjà une belle perte.
Il est sous les yeux là, c'est pas possible.
Ah non.
Enfin bref. 8 points pour Arthur, 4 pour Aaron, 2 pour Yann, ça fait 2 par 2, c'est enfin le double à chaque fois. Rakitic qui est resté du côté de la Croatie, Perisic qui était aussi prenable, sinon ils vont lancer toute la ligne défensive. Rajico, Lovren, Vida et Strinic, qui était un peu plus compliqué, je vous l'accorde. Pas de problème, Yann, tu peux te rattraper après parce que il y a jusqu'à 4 points à marquer. sur les questions précédentes, les prochaines questions. Il va falloir buzzer juste avec votre main sur la table. J'essaierai de vous avoir. Pareil, tout le monde connaît les règles. Je fais une description. Et dès que vous l'avez, vous buzzer. Si c'est la mauvaise réponse, vous passez votre tour. Vous devez attendre que tout le monde donne une réponse avant de pouvoir participer à nouveau. Trois questions ce soir de ce type. Et on va commencer sans plus tarder. Tout le monde est prêt ?
Oui.
Tout le monde est chaud, tout le monde est chaud dans le chat.
Aidez-moi sur le chat.
C'est parti. Né le 12 novembre 1998. Je mesure 1m80 et je suis né dans le 14e arrondissement de Paris. Je commence.
Kylian Mbappé.
Ce n'est pas Kylian Mbappé. Je commence le football à l'âge de 6 ans en Gironde. Par la suite, je vais être repéré par les Girondins de Bordeaux, avec qui je vais signer mon premier contrat pro. Je ne vais disputer qu'une saison avec cette équipe avant de partir en Liga dès 2019, un championnat que je ne quitterai pas et dans lequel je vais remporter la Ligue Europa avec Séville, puis trois Ligas avec un autre club. Je commence ma carrière en équipe de France pour préparer l'Euro 2020. Pour ma première sélection, je remplace Benjamin Pavard à la mi-temps. Désormais titulaire en bleu, j'ai également participé à la Coupe du Monde 2026. Mais ma place de titulaire a été davantage discutée lors de cet événement.
Théo Hernandez ?
Ce n'est pas Théo Hernandez. Ah, défenseur central de formation, c'est sous les ordres de Xavi que je deviens latéral droit en club et en sélection. J'ai marqué le but de la victoire lors de la finale de la Coupe du Roi 2025 avec le Barça. Également reconnu pour mon style, notamment lors de mes arrivées à Clairefontaine.
Je suis
Jules Koundé. À la toute fin, hein, Clairefontaine était le dernier mot. Jules Koundé, un point en plus pour Ryan. Ouais, dommage Arthur, je pense que tu aurais pu l'avoir si tu avais suscité.
J'ai eu à Séville.
Ouais, en l'écrivant, je me suis dit, je ne savais pas si je mettais juste Ligue Europa, si je mettais Ligue Europa avec Séville. Thème qui me dit Koundé, il avait la bonne réponse. Bravo Thème. C'est parti, deuxième description. Deuxième description, merci. Vous êtes tous prêts ?
Oui.
Né le 19 novembre 1965 à Alès. Dans ma carrière, j'ai joué pour 9 clubs différents et coaché 5 équipes différentes. Ma carrière de joueur prend fin en 2003 sous les couleurs de Manchester United. Ma carrière d'entraîneur, elle a pris fin en 2025 à Al-Ittihad, mais je ne suis pas fermé à un retour. J'ai notamment coaché le PSG de 2013 à 2016.
Blanc.
C'est Laurent Blanc. 3 points en plus pour Yann. Qui te fait monter à 6 points. Donc voilà, j'ai notamment coaché le PSG de 2013 à 2016, où une altercation avec Serge Aurier a fait beaucoup parler de moi, champion du monde en 1998. J'ai disputé 97 matchs en bleu en inscrivant 16 buts. La plus grande partie de ma carrière se fait avec Montpellier, club avec lequel je remporte la Ligue 2 en 1987 et la Coupe de France en 1990. Je remporte par la suite la Ligue 1 avec Auxerre en 95, puis la Première Ligue avec Manchester United en 2003. Je suis également passé par le Barça, l'Inter ou encore Marseille, avec qui je perds en finale de la Coupe UEFA de 1999. Du haut de mon 1m90, je joue au milieu de terrain. Également devenu une carte icône dans le jeu FC25, j'ai pris la relève de Raymond Domenech en 2010 pour coacher l'équipe de France, surnommé le président ou encore Lolo White. Je suis Laurent Blanc.
Bravo Yann.
Merci. Voilà. Dommage qu'on n'entende pas le public applaudir.
on pourrait applaudir. Enfin, deux applaudissements. Voilà, question un peu plus ancienne. Encore heureux que tu l'aies. Dernière description. Quel est ce sport apparu au XVIe siècle en Écosse, ne se pratiquant ni sur du gazon, ni sur du parquet? La piste utilisée mesure environ 45 mètres de long pour 4 mètres de large. C'est un sport qui est devenu olympique en 1924, puis est retiré en 1932, avant de revenir en 1988, pour encore repartir en 1994 et revenir définitivement en 1998, lors des JO de Nagano. C'est un sport...
Le curling ?
C'est le curling. Bravo Yann.
Et oui.
Je l'ai senti dans ton regard, tu étais un peu perdu sur les dates des JO.
Non, c'était sur les origines. au XVIe siècle, j'étais plus là.
Ah oui. Ouais. Eh bien, 3 points en plus, qui te fait passer à 9 points. Tu es donc en tête. 9 points pour Yann, toujours 4 pour Aaron et 8 pour Arthur. Je vais finir cette définition. Donc, en 1998, lors des JO de Nagano, c'est un sport dit de précision. Il se joue par équipe de 4. Les équipes jouent chacune leur tour et visent une cible circulaire. Il est possible d'enlever les pierres de l'équipe adverse afin de gagner plus de points ou d'en enlever à l'équipe adverse à la manière d'une partie de pétanque. Les champions du monde en titre sont la Suède chez les hommes et la Suisse chez les femmes. L'utilisation d'un balai est primordiale pour contrôler la trajectoire et la vitesse de la pierre lancée par son équipe, qualifiée de pétanque sur glace. Je suis le curling. Voilà, Yann, dis-leur bien, nous dit Taem. Voilà, il est en tête avant les questions personnalisées. Aaron, c'est mort pour toi.
Effectivement.
Voilà, parce que plus que 2 questions chacun pour revenir. Arthur, tu peux le faire.
C'est des questions à 1 point.
C'est des questions à 1 point. On pourra peut-être donner des points bonus. On sait jamais. Si une égalité, une question pour vous départager dans le chat. Préparez vos questions pour départager en cas d'égalité. Je compte sur vous. Question personnalisée. Je vais commencer par toi, Aaron. Quel joueur NBA a signé à Boulazac cet été?
C'est, oh là là, je le sais, j'ai oublié son nom. J'ai son nom sur le bout de la langue.
Ouais.
On en a parlé en plus. Comment il s'appelle?
Tic tac.
Attention, pas prendre trop de temps.
Ah non, je l'ai pas. Je vois sa tête, je vois tout, je vois sa vidéo, ouais. Et j'ai pas la.
Tu vas pas la voir?
Non, j'ai pas son nom.
De chat. C'était Pat Beverley,
ouais, putain.
Qui a signé à Boulazac un peu contre toute attente. On ne l'avait pas vu venir. Le joueur NBA, voilà. Arthur, question pour toi. T'étais où hier soir?
Hier soir?
Ouais.
C'est la question?
C'est pas la question.
J'étais à Château-Gontier au concert de Jules.
Ouais. Et donc, depuis quelle année le label d'or et de platine est-il sponsor de l'OM?
Eh bah depuis la saison.
Il me faut une année.
Une année?
Ouais.
Depuis.
Oh, quoi que non, là, une saison, ça marche aussi.
Ok, depuis la saison 2022-2023.
C'est la bonne réponse. Voilà, exactement, en janvier 2023.
Ouais. Merci, merci,
que,
merci.
Que le sponsor est arrivé là. Sur. Ah oui, tu l'avais?
Bien sûr.
J'en doute pas. voilà, donc le sponsor d'or et de platine est apparu sur la manche des joueurs de l'OM. Ça fait un point en plus pour toi, Arthur. Une erreur de Yann te permettrait de potentiellement remonter à la première place. Et deux erreurs, t'as compris. Yann, question pour toi. Combien de championnats de France a remporté le FC Nantes en tout?
Eh bien, 8.
C'est 8, c'est la bonne réponse.
Bravo.
De France. 10 points pour Yann, 4 pour Aaron, 9 pour Arthur. Rien n'est joué, tout peut encore se faire. Dernière question pour toi, Aaron. Quel est le nom de la salle des Boston Celtics?
Le City Garden.
Le quoi?
Je sais pas.
j'ai pas entendu le début.
C'est Garden, après je sais pas c'est quoi le début.
Ouais.
Putain.
Vas-y, c'est
bah, le City Garden.
Non, dommage, c'était le TD Garden. Je t'offre quand même 4 points pour cette réponse. C'est remonté au classement à 8 points. Arthur à 9 points et Yann à 10 points. Arthur, question pour toi.
Balle de match, Arthur.
Ouais, si tu loupes, c'est mort. Combien de titres de champion d'Espagne a l'Atlético de Madrid en tout?
Trop peu. Trop peu, en tout, je dirais 7.
Tu en vois en effet trop peu.
Trop peu.
Ouais. Il y en avait 11.
11.
11 titres de tant champion d'Espagne pour l'Atlético de Madrid, ce qui signe la victoire de Yann. Mais on va quand même poser la dernière question.
Je veux dire, Mélanie, je n'en doutais pas. Voilà,
c'est dit, le message est passé. Et donc, pour finir, on parlait de tennis tout à l'heure. Qui est le tennisman français le mieux classé de tous les temps au classement ATP?
Je crois que Noah était troisième. Alors, il y a Pioline aussi qui devait être pas mal.
Pour un nom, une réponse.
Ouais. Ouais, je dirais Noah.
Yannick Noah, est-ce que tu as l'année?
Bah, il a gagné Roland Garros en 83, donc en 84.
Non, il était donc c'est bien Yannick Noah à la troisième place comme tu me l'as dit, mais c'était en 86.
Aïe, aïe.
Et voilà, ça fait quand même un point en plus. C'est Yann qui remporte ce dernier quiz de l'été. Oh. On peut l'applaudir.
Bravo. Ouais.
Sera merci. Donc tenant du titre au moins jusqu'à l'été prochain.
Mais oui, voilà. Pour la prochaine émission dans un an.
C'est ça, belle perf dans 10 mois du coup, pour l'été prochain. Mais voilà, bravo Yann, donc 11 points pour Yann, 9 pour Arthur, 8 pour Aaron. Belle remontée d'Aaron en tout cas. Croyez pas au début.
J'ai un petit retournement de situation.
Hop là.
Peut-être
là.
À proposer.
La surprise.
C'est que j'ai un petit regret dans nos quiz de l'été.
Ouais.
Notre animateur préféré n'a pas de questions personnalisées.
C'est vrai. Non.
Donc, pourquoi pas finir sur ce dernier quiz avec deux petites questions personnalisées à 6 points chacune pour que notre animateur puisse potentiellement finir.
T'en as préparé ?
Avec ce titre, j'en ai deux.
Parfait, vas-y.
La première, quelles sont les années des trois derniers titres de Ligue des Champions du FC Barcelone ?
Ok. Les trois dernières, il y a 2016. Non.
bonus.
Bonus 2015.
Oui.
2015, il y a 2013.
Toujours pas. 2015, 2009, 2010, 2011 et 2009. Ouais. Dommage. Et pourquoi pas dépasser Aaron avec la deuxième question, l'année de fondation des Toronto Raptors.
L'année de fondation.
Oui.
Wow. 2004.
Non.
Non, ben non, c'est avant. Je suis con. Je suis bête. Pardon. Je suis pas malin. non, c'est en 80. Attends, est-ce que c'est le concours de dunk de 2000 et après du coup c'était en 98.
Et non, toujours pas. C'est pas 1995.
Ah ouais.
Quel dommage. Bon bah bon dernier notre animateur préféré.
Zéro
dommage,
point.
Dernier du quiz.
Ah c'est pour ça que j'anime et que je réponds.
Ouais, voilà, exactement.
J'ai bien trouvé mon rôle. Bah merci Arthur
pour
ces deux belles questions. Thème qui me disait 2015, 2012, 2009 pour les coupes les Ligues des Champions du Barça. C'était pas ça, du coup c'était 2011 au lieu de 2012, ouais. C'est ça. Dommage t'es. Ben nous on va se quitter, 20h48, un peu en avance, mais c'est pas bien grave. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné cet été, Arthur, Aaron, Yann, mais aussi Grégory, Aaron,
merci.
Grégory, Paul et Anatole et Tiama qui ont également été là tout l'été. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouvera avec l'équipe titulaire dont vous avez l'habitude de retrouver tout au long de l'année. Et on sera reparti pour une toute nouvelle saison. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.